Maître Crépin Mboulingouba, bonjour.
Bonjour Fernand.
La société centrafricaine aujourd'hui fait face à une montée inquiétante de l'incivisme. Vous avez aussi évoqué la question, selon vous, quelle est la cause de l'incivisme aujourd'hui en République centrafricaine?
Ce serait prétentieux de ma part de dire ici, connaître toutes les causes, mais les causes essentielles, je pense que je peux m'avancer. J'ai parlé de l'analphabétisme qui touche 67% de nos compatriotes. Je pense que cela compromet dangereusement toute idée même de progrès. Mais au-delà de l'analphabétisme, il y a les valeurs qu'on acquiert à la maison. Il me semble qu'aujourd'hui, la famille n'a plus de sens, les valeurs qu'on inculque à nos enfants. Je voudrais rappeler que la constitution de notre pays considère la famille comme le noyau de la société. Et donc, par conséquent, avant d'arriver à l'école, avant d'arriver à l'alphabétisation, il est important que nous sachions les valeurs que nous voulons inculquer à nos enfants. La différence entre le bien et le mal, la vertu de la sanction, le sens de l'effort, le courage, ce sont des valeurs qui doivent animer tout au long de sa vie un enfant qui grandit et qui prend la relève. Maintenant, le taux d'analphabétisme est tout à fait choquant. Combien d'écoles avons-nous construites depuis l'indépendance? Et dans les 33% restants, parce qu'au-delà de 67%, il y a des semi-lettrés et même la qualité de l'enseignement. C'est une urgence. Et cela se voit. La société s'est ensauvagée. J'ai fait référence à tous les actes d'incivisme auxquels nous avons droit dans la société.
Donc, si je vous comprends bien, le problème aujourd'hui est structurel qui nécessite une réponse à un niveau aussi élevé.
C'est la plus grande des priorités, puisqu'elle touche à l'identité nationale. Le centrafricain tel qu'on le définit, même à l'extérieur de notre pays, c'est un être d'incivisme, c'est un être violent. Et finalement, c'est un peuple extrêmement majoritairement analphabète. Vous savez que le Japon, il a atteint le progrès, comme je l'ai déjà écrit, à un moment où son taux d'alphabétisation a atteint celui de l'Europe. Il y a une corrélation claire entre le progrès et l'instruction. Même à l'époque où il n'y avait pas encore de science, au sens où on l'entend aujourd'hui, des livres saints, notamment la Bible, parlent de son peuple péri faute d'instruction. L'ignorance. Voilà l'ennemi qu'il faut désigner.
Aujourd'hui, il faut désigner l'ennemi, mais il y a quand même un début de solution avec la proposition du chef de l'État, François Kouadjadola, d'augmenter le budget de l'éducation qui passe de 13% selon la déclaration de Maputo à 24%. Ne pensez-vous pas que c'est un début de solution?
Moi, je parle sans démagogie. Je pense qu'il faut parler des faits. Au moment où on parle, je ne sais pas combien d'écoles vous pouvez me citer. Moi, je parle de manière structurelle. Et s'agissant de mon parti, le Patrie, nous avons prévu 20% en termes d'efforts chaque année. Mais comme il n'y a pas de possibilité du jour au lendemain de changer notre situation, nous avons évoqué de manière pratique l'appel à une coopération sud-sud. Cela veut dire que les enseignants qui n'ont pas le niveau au moment où l'on parle, il faudrait les recycler. Ceux qui n'ont vraiment pas le niveau, il faudrait les écarter. Ensuite, faire venir en coopération avec des pays africains, des enseignants. On construira des logements pour ça. On signera des contrats pour chaque enseignant. Cela s'est vu en Côte d'Ivoire. Pendant qu'on envoie nos enseignants en formation, ces frères africains viendront enseigner nos enfants en attendant que ceux des nôtres qui ont les compétences nécessaires, qui auront acquis le niveau nécessaire, prennent la relève.
Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui abandonnent les classes au profit des activités immédiates telles que les taxis-motos. Est-ce que tout ça là, ça n'engage pas la responsabilité aujourd'hui de l'État à épargner ces jeunes, à considérer l'école comme une vertu pour le développement?
Mais ces jeunes sont des victimes. D'abord parce que la promesse républicaine ne prend plus. On nous a dit, selon cette promesse républicaine, que par le biais de l'école, on pouvait s'élever dans la société. Et donc, quel que soit l'endroit d'où vous venez, vous allez à l'école, vous avez vos diplômes, au nom de l'égalité républicaine, vous progressez dans la société. Cette promesse républicaine ne tient plus parce que ceux qui réussissent aujourd'hui, c'est ceux qui ont raté leur cursus, ou ceux qui sont des cousins, en tout cas, la famille a fait son éruption contre le sens républicain. Donc ces jeunes sont victimes de ça. Deuxièmement, ces jeunes qui n'ont pas le choix n'ont même pas d'acte de naissance. Parce que l'échec, c'est même à la naissance. C'est-à-dire que vous naissez dans une famille qui n'a pas la possibilité de vous procurer l'acte de naissance qui fait de vous un centrafricain. Parce que même pour être centrafricain, il faut un certificat de nationalité. Vous n'avez pas l'acte de naissance. Vous avez raté votre vie avant même de la commencer. Il y a la conjugaison d'un certain nombre de facteurs qui sont des goulots d'étanglement pour ces jeunes. Et puis on ne réussit pas que par l'école. On va à l'école pour apprendre à écrire. Ceux qui n'ont pas pu poursuivre leur cursus très loin, on devrait pouvoir leur offrir d'autres perspectives, notamment par la construction, comme nous le préconisons, dans chaque arrondissement de centre de formation, de sorte que le jeune qui n'a pas pu aller loin à l'école, plutôt que de jouer au qui sort, peut décider de rentrer dans une salle de formation, dans le premier arrondissement, devenir électricien. 6 mois après, Il sort avec la qualification nécessaire et l'État subventionne les premiers outils. Et on peut même aller plus loin en organisant des facilités fiscales pour des entreprises qui donneraient leur premier marché à ces jeunes-là. Et je peux vous dire qu'un seul marché plus tard, ces jeunes vont gagner plus que n'importe quel fonctionnaire de l'État. Mais il y a aussi d'autres paramètres. En Corée du Sud, ceux qui gagnent le plus, ce sont les enseignants. Ce n'est pas pour rien. Les enseignants, les médecins, aussi les magistrats sont ceux-là même en termes de haute fonction dans l'administration qui doivent être les mieux payés. Et après, il y a toute une déclinaison de mesures, naturellement.
Conséquence immédiate de l'incivisme, c'est aujourd'hui le conflit, l'insécurité généralisée dans le pays. Et on parle aujourd'hui de Birao. Quelle est votre lecture de ce qui se passe à Birao, Ndélé, Bouya, etc.?
Évidemment, l'ignorance mène à la peur. La peur mène à l'explosion des superstitions, des préjugés. Et donc, même l'instruction nous permet d'avoir un certain relativisme dans la vie. Voilà pourquoi il faut aller à l'école. Maintenant, ce qui se passe à Birao est bien regrettable parce que, évidemment, il y a des vies humaines. Ces vies humaines doivent être déplorées. Et puis, c'est quand même très dommage parce que tout un bloc composé de plusieurs groupes s'était mis ensemble pour revendiquer leur intégration à la République. Pour moi, c'était en écho à cette promesse républicaine. C'était une belle chose. Il y a eu des dérapages, certes, mais la revendication avait un soubassement. Est-ce que nos parents du Nord font partie de la République centrafricaine? La réponse est oui. Donc, il fallait trouver les moyens nécessaires sans forcément faire recours aux armes. Aujourd'hui, eux-mêmes mettent en pièce cette volonté d'intégrer la République en raisonnant sur une base purement ethnique. Je souhaite que cette partie de notre pays puisse entendre raison, faire la paix et intégrer la République en termes de projet. Voilà ce que je peux en dire.
En novembre dernier, vous étiez là où, à la naissance du code 2020, à la signature de la charte, vous n'y étiez pas. C'est quoi le problème?
Écoute, je n'étais pas à la naissance. J'étais à une réunion informelle de l'opposition démocratique. Je salue la naissance de cette plateforme, qui est un acte démocratique qui a le mérite de regrouper quelques partis de l'opposition démocratique. Mais l'opposition est plurielle. Le Patri n'en fait pas partie, mais ça lui souhaite plein succès à cette plateforme. Il y a des élections dans 10 mois. Nous travaillons pour l'alternance au pouvoir, pour le bien de la République, parce que c'est la démocratie. Donc il n'y a aucun problème. Au contraire, nous souhaitons à cette plateforme plein succès.
Justement, les élections, c'est dans 10 mois, mais la mise en œuvre du chronogramme balbutie, et puis le DDR n'est pas encore opérationnel jusque-là. Est-ce que cela vous rassure?
Comme vous, je m'inquiète du retard évident dans la déclinaison et l'exécution de différentes phases devant nous permettre d'aller aux élections dans des conditions acceptables, crédibles. Tant de choses dépendent de la réussite de ces élections-là, notamment une certaine légitimité. Mais au-delà de ça, le Patri, qui doit et qui va, en tant que parti politique, aller aux élections, n'ira pas à ces élections dans n'importe quelle condition. Il faut que celui qui sortira des urnes, en tant que parti et en tant qu'individu, dit devant présider à la destinée de nos 5 millions de compatriotes, soit véritablement le choix des Centrafricains. Donc je m'inquiète, évidemment, comme vous. Je souhaite qu'on apporte un peu plus de clarté dans l'organisation de ces élections. Je ne partage pas l'optimisme béat des uns qui estiment que les choses se passent plutôt bien, ou plutôt le pessimisme des autres qui estiment que ces élections n'auront pas lieu. Entre les deux, il y a toujours, comme vous le savez, le juste milieu. La vérité se situe au milieu. Et donc nous travaillons, nous, en tant que parti, à aller à ces élections, mais nous avons des exigences quant à la transparence, naturellement, de ces élections.
Maître Crépin-Boulingoumba, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.